Radio Kapi. Les immunités derrière lesquelles se cachent plusieurs politiciens, auteurs intellectuels des tueries en province, doivent tomber pour laisser voie libre à la justice transitionnelle. Propos de Albert Fabrice Puella, ministre congolais de droits humains, propos tenu ce lundi à Tshikapa lors du lancement des consultations populaires nationales sur la justice transitionnelle. Voilà qui ouvre ce journal. Éducation de la population sur les dangers auxquels elle s'expose en empruntant un train marchandise, un accent particulier sur l'entretien du réseau ferroviaire, autant d'approches qu'envisage le DG de la SNCC pour parer aux nombreux accidents qu'on enregistre en République démocratique du Congo. En fin de cette édition, nous recevons comme invité Feli Lukongo, directeur juridique à la direction stratégie, réglementation et internationale à la CNRF. C'est pour parler du séminaire d'évaluation des risques liés au blanchiment décapité et au financement du terroriste. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Capi pour vous informer. Bienvenue et bon après-midi à toutes et à tous. Le ministre des Droits humains appelle l'Assemblée nationale à faire des réformes pour faire tomber la cuirasse des immunités derrière laquelle se cachent selon lui plusieurs politiciens, auteurs intellectuels des tueries en province. Fabrice Albert Puella l'a dit ce lundi à Tshikapa à l'occasion du lancement des consultations populaires nationales sur la justice transitionnelle. Albert Fabrice Puella estime que les populations victimes des atrocités doivent se parler, connaître la vérité de ce qui s'est réellement passé et se pardonner. Dans le contexte de la province du Kassai, il a fait allusion aux atrocités subies par les populations en 2017 dans le phénomène dit Kamuinansapu. Cependant, ce pardon ne viendra pas sans justice. On écoute le ministre Albert Fabrice Puella dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Si l'État était si pas commanditaire, alors complice des atrocités, des crimes crapuleux et odieux, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au sein de l'espace Kassai, et pire encore au sein du palais royal et sacré du chef Kamuinansapu, il est disposé, je parle de l'État, il est disposé non seulement à faire en sorte que la vérité soit connue, que les gens se parlent et se pardonnent, mais aussi et surtout qu'il y ait des poursuites judiciaires. Et c'est là que nous saluons la présence des dignes représentants du peuple pour que de vraies réformes aient lieu à l'Assemblée nationale, pour que cette cuirasse derrière laquelle nous nous cachons, nous les hommes politiques, nous les responsables politiques qui tirons les ficelles en envoyant nos populations à la boucherie, puisse tomber. Parce que lorsqu'il y a mort d'homme, nous savons que dans l'arsenal des droits humains, la valeur transcendantale, c'est le droit à la vie. Et lorsque quelqu'un, par un quelconque de ses actes, a causé la mort à des hommes, il ne peut pas se permettre de se cacher derrière des immunités.
Au Nord Kivu, un concert musical pour la paix a été organisé ce dimanche dans la ville de Beni. Civils, policiers, militaires, serviteurs des dieux de toutes les tendances confondues ont pris part à cette activité qui avait pour objectif de consolider la relation civilo-militaire et d'implorer la grâce des dieux pour le retour de la paix dans la région de Beni. Marc Marofimbo, reportage.
Les chansons et messages de la paix ont caractérisé ce bon moment qui a réuni plusieurs orchestres et chorales gospel de Beni et Butembo sur un même podium autour de la chorale civilo-militaire de la région. Tous ont chanté pour la paix et imploré la grâce des dieux pour l'effectivité de cette paix dans la région de Beni, touchée par les tueries des civils depuis plusieurs années. Moïse Kimoto est un artiste musicien gospel de Butembo invité à ces concerts.
J'ai accepté de venir à Beni parce que c'est ce que je peux donner comme artiste. Donc ma contribution dans cette activité, c'est ma présence ici. Que Dieu puisse nous donner la paix. J'aimerais que la population de Beni puisse espérer à Dieu parce que c'est bien lui qui a la solution.
Les organisateurs de cette activité pensent que c'est grâce à l'unité et la cohésion entre l'armée et les civils qui aura la paix dans la région de Beni. Moïse Siriwayo, membre du comité organisateur.
L'objectif, c'est pour établir la paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de coalition entre ceux qui travaillent pour la paix et les bénéficiaires de la paix. Le message clair, c'est pour faire montrer au peuple que et les militaires et les policiers et la population, tous nous luttons pour la paix.
Signalons que plusieurs messages de la paix ont été lancés lors de ce concert de la paix qui s'est déroulé dans la clôture du commissariat urbain de la police nationale congolaise de Beni. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
73 morts, 125 blessés, dont 28 avec traumatisme. Tel est le bilan officiel que vient de confirmer le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. Fabien Moutombe annonce que les enquêtes sont en cours en vue d'établir les responsabilités et promet des sanctions à l'endroit de toute personne impliquée dans cet accident. Et pour prévenir ce type d'accident dans l'avenir, le DG de la SNCC annonce une série de démarches, notamment l'éducation de la population sur le danger auquel elle s'expose en empruntant un train marchandise. Aussi mettre un accent particulier sur l'entretien notamment du réseau ferroviaire des ressources humaines. Fabien Moutombe répond aux questions de Guy Maté.
Nous allons éduquer les usagers du chemin de fer, éduquer la population congolaise, les risques que nous sommes en train de prendre en empruntant les trains marchandises. Et au-delà de ça, c'est un problème de l'exode urbano-rural. C'est pourquoi nous, à la SNCC, nous appuyons formellement le programme du président de la République sur le développement de 145 territoires. Si nous arrivons à cela, je crois qu'il n'y aura pas de mouvement incontrôlé. Et dans cette administration, nous mettons l'accent sur les ressources humaines, nous mettons l'accent sur la voie, les locomotives et les wagons. Je le dis que cette question, c'est une question transversale. Il touche la SNCC, il touche le pouvoir public, il touche la population congolaise. Il faut la conjugaison de tous ces éléments pour que nous puissions trouver de solutions idoines. Et nous les trouverons.
Province de Maniema à présent. Le territoire de Kailo, la vie socio-économique de la population mérite d'attirer l'attention des dirigeants. Depuis que le pont Amboué a cédé des suites d'une forte pluie qui s'est abattue au mois de février dernier, les prix des produits des premières nécessités ne font que galoper. Le député national de Kailo, Amissi Patrick Loupia, qui revient de ses vacances parlementaires, demande aux autorités de prendre toutes leurs dispositions pour résoudre ce problème. Amissi Patrick Loupia revient sur son appel au micro de Florence Kizalunga.
Avec la destruction des ponts Amboué aujourd'hui, un petit gobelet que nous appelons communément tomato du sel qui revenait à 500 francs, aujourd'hui ça revient à 1500 francs. Pendant qu'à Kindu, les 1500 francs, c'est le prix de presque un kilo du sel. Tandis qu'aujourd'hui, si vous allez à Kailo, vous allez trouver qu'un tomateau de sel qui coûtait 500 francs avant la destruction de ces ponts, aujourd'hui ces mêmes tomateaux de sel revient à 1500 francs. Donc la vie a triplé. C'est la même chose aussi pour les produits pharmaceutiques et d'autres produits de première nécessité. Parce qu'il n'y a plus de communication. Pour traverser, on a mis une petite pirogue fortune là-bas. Il faut débourser 20 à 25 000 francs pour débourser. Alors ces trafiquants, ils font endosser ces charges sur les coûts des prix des produits de première nécessité qu'ils utilisent pour vendre au niveau des secteurs d'Ambo. C'est inacceptable. L'État doit s'assainir, l'État doit prendre ses dispositions pour pallier à ces problèmes. Bien sûr, étant qu'élu du coin, étant que fils du coin, nous avons donné notre participation. C'est l'engagement de réhabiliter ces ponts le plus tôt possible pour pallier à ces difficultés de la population du territoire de Kailo.
Reprise timide des activités ce lundi après-midi dans la ville de Butembo. C'est après une paralysie partielle des activités l'avant-midi suite à l'appel de la synergie locale des mouvements citoyens et groupes de pression à une série des journées villes mortes pour exiger la levée de la mesure portant l'instauration de l'état de siège. La société civile appelle les organisateurs à revoir leurs mots des revendications. Grévis Salumo pour les détails.
Boutiques, magasins et petits commerces situés le long du boulevard Joseph Kabila, l'artère principale de la ville de Butembo, ont réouvert vers leurs portes. C'est le cas également des officines pharmaceutiques et les transports en commun qui fonctionnent normalement. L'avant-midi, plusieurs rues et avenues de la ville étaient barricadées suite à l'appel de la synergie locale des mouvements citoyens et groupes de pression à une série de journées villes mortes pour protester contre l'état de siège. La coordination urbaine de la société civile de Butembo, qui dit s'opposer à ces journées villes mortes, appelle les organisateurs à revoir leur mode de revendication. Van Germain Katiwa est son premier vice-président.
Quand nous demandons aux gens de ne pas vaquer à leurs activités, ça devient encore une auto-flagellation. Alors je crois que les organisateurs de ces journées villes mortes devraient revoir leur méthode d'appeler la population à les accompagner. On ne peut pas demander l'accompagnement de la population face à cette barbarie que les organisateurs ont mis en place.
Le commandant de la police à Butembo annonce l'interpellation de 4 personnes accusées d'avoir jeté des projectiles sur une jeep de la police. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Butembo, Grévis Salumu, Radio Okapi.
Au Kassai oriental, plus de 170 cas de rougeole ont été identifiés dans 11 zones de santé sur les 19 que compte la province depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Il y a un mois que l'épidémie a été déclarée seulement dans la zone de santé de Miabi. Le chef de division provinciale de la santé affirme que les investigations sont en cours pour identifier les causes réelles de cette propagation rapide de l'épidémie. Selon Dr Bonheur Tshitekou, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a disponibilisé depuis la semaine dernière des intrants pour faire face à cette résurgence de l'épidémie des rougeoles. Il a été joint par Esther Dalafina.
Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, nous avons notifié 176 cas de rougeole avec zéro décès. Il y a 11 zones de santé sur 19 qui ont notifié au moins un cas suspect, mais néanmoins, il y a deux zones de santé qui ont plus de cas, c'est notamment la zone de santé de Tshishimbi qui a à elle seule notifié 74 cas, puis suivi de Miabi qui en a notifié 61. Mais seulement, il faut signaler que les deux zones de santé sont en épidémie, étant donné que les échantillons prélevés envoyés à l'INRB se sont révélés positifs. Nous avions eu à organiser des missions d'investigation dans les quatre zones de santé, notamment Miabi, Tshishimbi, Tshitenge et Tshilundu. Au niveau de la zone de santé de Miabi, il y a eu même une riposte circonscrite sur la cité de Boya qui regorge 4 aires de santé. On a eu à vacciner pour limiter la propagation de la maladie. Bientôt là, ça va être de même dans la zone de santé de Tshishimbi. Nous venons d'être dotés en kit de prise en charge par l'UNICEF.
Signalons qu'il y a une année que la province du Kassai oriental avait déclaré la fin de l'épidémie des rougeoles et de choléra. Dans la même province du Kassai oriental, hausse de prix des produits brassicoles en Bujimaï. Un casier de bière d'Opel Col Simba ainsi que Tembo qui se vendait à 42 000 francs congolais la semaine dernière coûte actuellement 60 voire 70 000 francs congolais. Cette hausse a eu de l'incidence sur le prix de la bouteille de bière vendue à 4 500 francs congolais, la bouteille de bière revient du coup à 8 000 voire 9 000 francs congolais. Cependant, les dépositaires des produits brassicoles justifient cette hausse par la loi de l'offre et de la demande. Des explications avec Esther Dalafina.
Une bouteille de bière d'Opel, Skol, Simba et Tembo qui s'est vendue à 4 500 francs congolais au début de la semaine dernière varie actuellement entre 8 et 10 000 francs congolais. Les détenteurs des terrasses déplorent cette hausse. Ils sollicitent l'implication des autorités pour le retour de la brasse Simba au Kassai oriental. Gédéon Kapiamba, propriétaire de Nganda Kingakati.
On a vraiment des difficultés énormes. On souffre pas mal. Subitement comme ça, la bière arrive à 70 000 francs. Et la Brassimba retourne ici en Bujimaï. On ne sait pas encore comment faire nourrir nos enfants.
Depuis la fermeture en Bujimaï et à Kananga de la Brassimba en septembre 2020, les prix des produits brassicoles sont devenus instables dans le Grand Kassai. Les deux dépositaires de ces produits en Bujimaï ont vendu depuis le week-end dernier à ce jour le casier de bière à 50 5 000 et actuellement à 70 000 francs congolais. Boniface Bidilou qui nous justifie cette situation par la loi de l'offre et de la demande.
Nous avons un problème de rareté de produits. Comme on dit toujours en économie, c'est qu'il y a un rare coûte cher. Et ça, c'est lié au fait que la SNCC n'est pas en train de nous servir comme une. Nous avons un wagon ou des wagons pour un mois ou deux mois.
Signalons que pendant que les produits brassicoles sont en hausse, la ville de Mbujimaï est confrontée à une forte chaleur et au manque d'énergie électrique. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
La police de la ville de Kinshasa vient de lancer une opération autorisant la population à filmer tout véhicule qui ne respecterait pas le code de la route. Ensuite, envoyer cette vidéo dans le groupe WhatsApp que la police a créé pour qu'elle soit diffusée à la télévision. Cette opération est appelée Opération Kebana Camera, traduisée Opération Attention à la Caméra. Selon la police de Kinshasa, l'objectif est de décourager l'incivisme routier. Reportage de Jean-Francis Mouya.
Suite à l'annonce de la création du dit programme, les avis sont partagés du côté de la population. Les uns le jugeant de salutaire car la population aura la possibilité de dénoncer. D'autres par contre pensent que cela mettrait la population en danger.
Moi je pense que c'est vraiment une bonne décision de donner l'opportunité à la population de parler. Parce qu'on n'a pas toujours la facilité de dénoncer ce qui se passe.
Imaginez-toi, moi, un individu que je suis, qu'on m'appréhende en train de filmer une Jeep de la police qui est en train de passer ou je ne sais quoi. Et alors, ça sera quoi mon sort? Moi qui étais en train de filmer, sans carte de presse, sans quoi que ce soit. Mais est-ce que la police peut encourager les désordres?
Du point de vue juridique, Maître Grasse Binet, né avocat au barreau de Kinshasa Matete, donne des éclaircissements.
Le droit droit à l'image aussi joue, parce que si vous devrez filmer quelqu'un qui ne vous a pas donné l'autorisation de le filmer, vous voyez que vous faites quelque chose d'illégal carrément. La police doit être équipée avec des caméras qui permettra, par exemple, pour des véhicules qui prennent des sens uniques, au moins d'avoir la plaque du véhicule pour qu'après que les enquêtes soient ouvertes contre ces personnes-là.
Notez que les images prises seront communiquées à la police à travers un forum WhatsApp pour traitement avant d'être diffusées.
Actualité internationale.
La hache de guerre déterrée en Casamance, l'armée sénégalaise a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une offensive contre les rebelles actifs dans cette partie du territoire sénégalais depuis 1982. Dans un communiqué, l'état-major souligne que cette opération vise à démanteler les bases de la faction du mouvement des forces démocratiques de Casamance de Salif Sadio, située le long de la frontière nord avec la Gambie, mais aussi à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone. Au moins 13 gendarmes ont été tués dimanche 13 mars dans une embuscade près de la ville de Taparko au nord du Burkina Faso. Les forces de l'ordre étaient en mission de reconnaissance et de sécurisation de l'axe Taparko-Tougouri lorsqu'elles ont été attaquées par des individus armés. Selon une source sécuritaire, plusieurs membres de l'équipe de la gendarmerie des Dori sont encore portés disparus. Des opérations de ratissage ainsi qu'un déploiement des renforts sont organisées pour retrouver les gendarmes.
L'invité.
Une délégation de la cellule nationale des renseignements financiers séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où elle organise un séminaire d'évaluation des risques liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Y prennent part les représentants des parquets civils et militaires, des régies financières, des services des douanes et des miniers. D'après Feli Lukongo, le directeur juridique à la direction de la stratégie réglementation internationale à CNRF, l'objectif est de récolter les données sur ces risques afin d'engager une lutte contre les auteurs du blanchiment et du financement du terrorisme. Pour en parler, Feli Lukongo est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Feli Lukongo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes en atelier d'évaluation de blanchiment de capitaux dans la province du Haut-Katanga. Est-ce que dans cette province, il y a le risque de blanchiment des capitaux? Si oui, dans quel secteur?
Le risque, ça ne peut pas manquer. En plus de la collecte des données, nous procédons en même temps à la sensibilisation de notre loi anti-blanchiment au niveau de tous les services impliqués dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Quels sont ces services-là?
Il y a les parquets. Si l'autorité de poursuite n'est pas suffisamment informée en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, cette lutte est vaine. Parce que l'efficacité se mesure à partir des décisions prises par l'autorité de poursuite. On doit avoir des condamnations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. On doit avoir des confiscations, tout ça pour décourager les blanchisseurs. Il y a les services des douanes, il y a les régies financières, il y a les miniers, beaucoup de secteurs. Nous sommes en train de récolter des données pour nous donner une vue sur ces risques-là. C'est seulement lorsqu'on aura récolté les données, on les consolide, on élabore un rapport qu'on peut, à travers les conclusions de ces rapports, avoir une idée nette sur ce qu'est la province en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Par quoi est-ce qu'on peut découvrir que les capitaux détenus par X personnes sont les produits du blanchiment?
Le groupe d'action financière a listé un certain nombre des infractions pouvant donner lieu au blanchiment des capitaux. Par exemple, la fraude douanière, la fraude fiscale, l'escroquerie, le trafic des stupéfiants. Ce sont les types d'infractions pouvant directement donner lieu au blanchiment des capitaux.
Pourquoi ne pas sensibiliser suffisamment la population sur cette question afin qu'elle soit aussi suffisamment avisée et qu'elle puisse vous aider dans la démarche qui est la vôtre?
La sensibilisation se fait en cascade, c'est-à-dire on fait venir les représentants des administrations pour que eux aussi, à leur tour, ils fassent leurs devoirs. On leur fait savoir ce à quoi ils sont appelés à faire. Et après, ils vont faire leurs devoirs. C'est une lutte nationale.
C'est justement la profondeur de ma question, parce que les gens qui étaient ici ne représentent pas toutes les couches de la communauté nationale. Que cette loi puisse atteindre même le petit peuple, dans ce cas-là, il sera plus facile de pouvoir vous aider.
C'est le souci aussi du secrétaire exécutif, M. Adler Kisula, de sens que toutes les couches de la population soient sensibilisées. Mais les moyens doivent suivre.
après l'évaluation, la prochaine étape serait laquelle?
La consolidation de ces données. Après, on va sortir un rapport. Ce rapport doit être validé par les autorités compétentes. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Dès que le rapport est fini, il est présenté aux autorités et une fois validé, ce rapport constituera la matière maintenant à un autre service d'appui à la Cellule nationale des renseignements financiers, le comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce rapport va lui servir pour définir une politique et une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux. Évidemment, construire une cartographie nationale des risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.
Peut-on s'attendre à des poursuites en cascade dès qu'il est établi qu'il y a effectivement blanchiment des capitaux dans tel ou tel secteur?
Les poursuites en cascade, c'est notre souci. Voilà pourquoi nous venons de partager avec les autorités des poursuites, des magistrats, des cours et tribunaux. Nous venons de les sensibiliser. Nous venons de leur faire voir qu'ils constituent la clé de voûte. Ils sont les destinataires de tous les dossiers traités par la CNRF. L'idéal, c'est d'arriver à décourager les blanchisseurs. Comment arriver à décourager les blanchisseurs s'il n'y a pas de condamnation? Comment décourager les blanchisseurs s'il n'y a pas de confiscation? Parce qu'il faut les déposséder de ces fruits illicites qu'ils détiennent.
Enfin, où placez-vous la corruption dans tout ça?
La corruption, c'est une infraction sous-jacente au blanchiment des capitaux.
Et donc, les autorités des poursuites, et si elles pouvaient être impliquées dans la corruption au point de mettre de côté certains dossiers qui pourraient être appelés sensibles?
Je vous dis que le chef de l'État est très impliqué dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Pas seulement la lutte contre le blanchiment des capitaux, même la lutte contre la corruption. Il y a la PLC qui lutte contre la corruption. C'est une structure d'appui qui s'occupe aussi du blanchiment, mais qui lutte aussi contre la corruption. Tout ça, ce sont des initiatives du chef de l'État dans le cadre d'une bonne transparence.
Félix Lukongo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà comment se referme cette édition de Journal Parlé sur Radio Okapi qui vous a été préparée par Élisée Tikota, Martin Sebujangwe, Alain Irung, Pele Kipelamonto et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Van Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.